On continue sur Canal Sud à parler de la ville et de ses mutations et de ce qu'elle sera demain avec Jean-Pierre Garnier qui est toujours là au téléphone.
Oui, oui.
Désolé hein, Jean-Pierre, c'est les aléas du direct et d'une émission qui ne dure malheureusement qu'une heure. Je voudrais peut-être, je pense qu'on n'a pas pu tout aborder, mais je voudrais aborder une question quand même avant la fin. C'est une question qui est tout simple, c'est qu'est-ce qu'on fait contre ces logiques capitalistes, ces logiques commerciales, ces logiques plutocratiques ou élitistes? Qu'est-ce qu'on fait? Et dans Friture, bah, c'est une tradition, c'est qu'il y a toujours une partie qui parle des possibles. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Qu'est-ce qui se fait de possible aujourd'hui? On n'est pas dans l'autogestion totale, on n'est pas dans un système de révolution tout de suite, il faut le dire, c'est clair, mais il y a des petites portes qui arrivent et des idées, et notamment une idée qui prend son chemin en ce moment, c'est celle des coopératives. Alors Philippe, tu peux nous parler de ce monde des coopératives?
Oui, alors là, on a une fois de plus donné la parole, hein, parce que nous, on ne s'exprime pas dans ce numéro, à un chercheur, c'est Jacques Prade, qui dirige le Master d'économie sociale et solidaire au Mirail, et qui voit face à cette mégalo ville de demain, des solutions dans un secteur qui lui tient à cœur, c'est celui de l'économie sociale et solidaire et celui des SCOP. Donc il présente les 3 ou 4 handicaps qui se présentent à nous, donc évidemment le pic du pétrole, la place de la bagnole, etc. Et essaie de mettre en place un système de coopération dans les villes, que je vous invite à découvrir dans le numéro, hein, je ne vais pas le décrire là, mais essayer d'adapter un peu, et c'est là où on rejoint un peu Jean-Pierre, mais peut-être pas sur des formes d'autogestion, le modèle de la société coopérative à une ville coopérative, donc avec plein de dispositifs sur les marchés, sur la disparition des supermarchés. On sait aussi que les supermarchés sont des points de repère dans les villes très importants, hein, c'est l'hyperconsommation qui détermine un peu la construction de ces villes. Donc Jacques Prade met en avant des systèmes de coopération, les circuits courts, les débats citoyens, etc. Mais je vous invite à le découvrir dans le magazine, je ne veux pas être trop long, et peut-être rebondir avec Jean-Pierre sur cette question de l'autogestion. Quoi.
Mais justement, alors, juste avant, moi je me rappelais d'un article qui est paru il n'y a pas longtemps dans Friture, qui parlait de la coopérative intégrale toulousaine, qui est une coopérative, mais qui essaie d'allier la question de l'emploi, la question de l'alimentation, la question de l'habitat, et donc des formes presque d'autogestion, là on serait.
Oui, oui, la coopérative intégrale se réunit depuis un peu plus d'un an à Toulouse dans un lieu très connu de symbole d'autogestion, c'est la chapelle. Ils ont beaucoup de mal, quoi. Ils ont beaucoup de mal. On ne les a pas trop entendus là, pendant les élections, je trouve ça dommage. Mais ils ont des projets d'autogestion ou coopératif dans des centres urbains.
Jean-Pierre, peut-être un mot sur ces coopératives?
Le problème des coopératives, il est bien évident que, bon, on peut appeler ça autogouvernement, autogestion, auto-organisation.
Ça ne gênera pas l'auditeur de Canal Sud.
Ouais. Il est bien évident que, à chaque fois que des expériences de ce genre ont été mises en place, effectivement, toujours c'est resté, premièrement, extrêmement minoritaire. Ça ne remettait pas en cause la logique globale de l'urbanisation, qui va dans le sens croissant de la dépossession des habitants sur la maîtrise de leur cadre de vie. Alors effectivement, on peut trouver ici et là, bon, moi j'étais il n'y a pas longtemps, je suis lié à des universitaires et surtout des anarchistes à Barcelone. Barcelone, vous avez pas mal d'endroits où il y a des coopératives. Alors pour le logement, c'est réglé. C'est-à-dire qu'en fait, le logement autoconstruit existe en certaines périphéries, mais à Barcelone, ça se passe exclusivement, quasiment, en termes de squat et d'occupation. Soit de logements vides, ou soit d'anciennes usines, d'anciens ateliers, d'anciens entrepôts. Et là, avec l'appui des gens du quartier, ce qui est intéressant, ce ne sont pas des îlots, j'allais dire, d'anars ou de gauchistes isolés comme ça, par rapport à la population. La population résidente de ces quartiers trouve très bien que, dans ces lieux-là, il n'y ait pas seulement des solutions au logement, mais également des activités auto-organisées, aussi bien pour les enfants, l'initiation à la peinture, des concerts de musique, des repas collectifs, des fêtes organisées. Mais il est bien évident que, pourtant Barcelone, on pourrait dire, est la capitale des squats européennes, en Europe, ce sont des mini-réalisations qui sont en fait dans des poches de permissivité. Bien entendu, si la municipalité, le gouvernement régional décide un jour de les virer, en général, c'est comme ça que ça se passe. En France, on ne compte plus les expulsions de squats artistiques, pour prendre un exemple. Sauf lorsque ces squats artistiques sont un moteur dans certains quartiers de la gentrification, c'est-à-dire de la colonisation des quartiers anciennement ouvriers par cette nouvelle petite bourgeoisie intellectuelle.
Mais justement,
le squat peut donner effectivement un coup d'envoi parce qu'il s'y passe des choses différentes en termes de musique, en termes de festivals de cinéma, etc.
Oui, Philippe,
ça,
vas-y.
Il y a plusieurs types de squat. Hein.
Jean-Pierre, pour donner l'exemple toulousain, celui qu'on connaît le mieux, c'est l'exemple de Myris qui est en voie de légalisation, on va dire, dans un quartier qui s'appelle la Cartoucherie, puisque Myris aura l'an prochain des locaux flambant neufs. Et dans la même logique, hein, le seul projet d'habitat participatif à Toulouse est mené par la mairie, directement par la mairie, dans le même quartier de la Cartoucherie. Il existe à Toulouse, bon, deux ou trois squats encore vivants, le quai Saint-Pierre, et le seul exemple d'habitat participatif citoyen qui marche et qui tourne à Toulouse, il est à Ramonville, ça s'appelle Mange-Pomme, où il y a des gens qui se sont battus depuis 20 ans, il y a une quinzaine de familles qui s'est rassemblé et qui fonctionne comme à Barcelone, qui est un très bon exemple, je suis d'accord.
Mais alors là, je te réponds, Philippe, parce qu'à Toulouse, on a la CREA, la campagne pour la réquisition, l'entraide et l'autogestion, qui ont mis en place...
Qui s'exprime dans le journal.
S'exprime dans le journal via les habitants de la réquise. Il y a une tribune, justement, de ceux qui... L'habitant de la réquise du quai Saint-Pierre, qu'on a invité souvent à Canal Sud. La CREA, qui a expérimenter un centre social, un centre d'accueil pour des personnes, y compris sans emploi, sans papier, et qui a très bien marché, qui avait vraiment des modes de fonctionnement horizontaux intéressants. Ce qui l'a freiné, c'est que tout simplement, il y a eu les expulsions, il y a eu 15 expulsions successives.
Bien sûr, c'est systématiquement le
contrôle de la municipalité. Il laisse faire, si c'est quelque chose, je le répète, qui n'est pas trop politique, qui est culturel, qui permet de redorer l'image d'un quartier. Hein, à Paris, c'est la même chose, ailleurs à Strasbourg aussi. Non seulement on laisse, mais on finit même, on voit des municipalités qui financent des expériences d'autogestion culturelle parce que ça donne une image branchée.
Mais aussi parce qu'ils aiment, parce que c'est intéressant peut-être aussi.
Le cas de Créa, c'est l'inverse. Hein, c'est quelque chose qui remet en question la propriété, qu'elle soit privée ou d'État. C'est l'auto-organisation complète. En plus, ils aident les immigrés sans papier à trouver un logement. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va à l'encontre du maintien de l'ordre et de la pacification. C'est pour ça que tout à l'heure, quelqu'un m'a dit qu'il ne faut pas parler de lutte des classes. On peut dire que les gens du CREA, ils sont dans toute la tradition anarchiste, même pas anarchiste traditionnelle, mais anarchiste innovante. Il est bien évident que tôt ou tard, si ça faisait école, si tout le monde commençait à se dire, pour trouver un logement, on va occuper les logements vides, il y en a un gros paquet à Toulouse de logements vides, vous le savez comme
moi. Oui, il y en a 2000 rien que pour les publics.
À des fins spéculatives d'ailleurs. Eh bien, ça serait déjà... On serait dans un processus révolutionnaire, hein, faut pas se...
Mais alors, Jean-Pierre, dans ce cas-là, si les coopératives, soit elles sont acceptées, et dans ce cas-là, c'est du vernis de la politique métropolitaine, soit elles sont refusées et donc expulsées systématiquement, mais dans ce cas-là, je te repose la question, comme le disait le camarade Vladimir Ilyich Ulianov, que faire ?
Ben oui, c'est justement, on se la pose tous. Moi, j'ai une amie actuellement, là, il y a un ouvrage que je vous conseille. Ça ne concerne pas Toulouse, mais Paris. Elle s'appelle Anne Clerval, une jeune géographe. Elle a fait un ouvrage qui, à partir de sa thèse, mais elle l'a désuniversitarisé, et qui s'appelle Paris sans le peuple. Et c'est une très bonne analyse de ce qui est en train de se passer à Paris et dans la proche banlieue, ex-banlieue rouge, qui devient une banlieue rosâtre et verdâtre, avec évidemment les bobos qui arrivent, hein, les gentrifieurs, comme on dit en pseudo-langage scientifique. Et là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que pour lutter contre la gentrification, on peut effectivement, c'est ce qui se fait, multiplier les squats. Mais il ne faut pas pas oublier une chose, c'est pour ça tout à l'heure je tenais à faire la distinction, vous avez des squats dits de précarité. Ce sont des gens qui, pour ne pas se retirer à la rue, sans aucun engagement politique concret, ils occupent le logement et point. Vous savez combien il y a de squats ? À ce moment-là, on pourrait dire que c'est la Révolution à Paris. En région parisienne, il y a environ 2000 squats. Mais la quasi-totalité de ces squats sont des squats clandestins. C'est-à-dire que, alors évidemment, dès qu'on a besoin d'une opération de rénovation, la police intervient, on expulse. Mais les squats politiques, ceux qui combinent, et quand ils font des activités artistiques, c'est justement pour populariser les luttes. Hein, il y en a un, par exemple, très connu maintenant à Ivry, il s'appelle Dilango, peu importe le nom. Vous en avez un autre, deux autres ou trois à Montreuil, vous en avez un à Saint-Denis. Mais ce sont des squats emblématiques, et les municipalités, qu'elles soient de gauche ou de droite, et là c'est des municipalités de gauche, entre guillemets, Front de Gauche même, hein, Parti communiste, eh bien, quand il faut s'en débarrasser, ils s'en débarrassent. Un squat politique, c'est un squat qui donne le mauvais exemple, qui donne l'idée aux habitants qu'ils pourraient résoudre par eux-mêmes leurs problèmes, mais ça veut dire qu'il y a affrontement. Affrontement par rapport aux logiques des promoteurs, des constructeurs, des banques, etc. C'est pour ça qu'on se retrouve dans un contexte de lutte des classes. La lutte des classes, c'est pas moi qui l'invente, c'est que les intérêts des différentes couches sociales ne sont pas compatibles et que, pour l'instant, évidemment, vous l'avez dit, nous sommes dans une conjoncture qui dure depuis bien longtemps, où la bourgeoisie est à l'offensive sur tous les fronts, sur le front urbain comme ailleurs, et la métropolisation est une des manifestations de cette offensive. Hein.
Bah merci.
On va polariser l'essentiel du développement urbain au service des élites, bourgeoisie, petite bourgeoisie intellectuelle, avec le rejet vers la périphérie, de plus en plus éloignée des classes populaires. Effectivement, les villes proches des métropoles, certaines servent de banlieue dortoir, si on peut dire, aux gens qui travaillent dans la métropole. C'est pour ça qu'elles gonflent.
Jean-Pierre.
Ces villes, parce que les gens ne peuvent pas se loger, ça devient de plus en plus cher.
Jean-Pierre.
Agglomérations, et ils vont trouver des logements moins chers en périphérie.
Jean-Pierre, il va falloir qu'on conclue, on va devoir rendre l'antenne parce qu'il est
8h05.
Mais merci de ta contribution. Je vais laisser le mot de la fin à Philippe, ça te dérange pas. et assez court, si tu peux, Philippe.
Oui, mais je suis d'accord avec Jean-Pierre, on se connaît depuis longtemps. Et phénomène nouveau qui apparaît avec cette exclusion et en fait cette mainmise de la bourgeoisie dans les centres-villes, c'est le périurbain. Nous, on s'appuie sur l'étude d'un sociologue qui s'appelle Éric Chauvier, que tu dois connaître, Jean-Pierre, qui est à Bordeaux et qui travaille sur ce phénomène de périurbanisation et de ce que Télérama a appelé au mois de décembre les nouveaux lieux moches. Ou les nouveaux lieux de relégation. Voilà, c'est un article extrêmement intéressant à consulter, je pense. Et puis voilà, hein, pour finir sur le numéro, c'est qu'on parle évidemment de la ville en transition, de la ville intelligente, du pic du pétrole, de la place de la nature. On s'aperçoit que vraiment la gestion de ces centres urbains, de ces municipalités ou métropoles est un casse-tête pour les politiques. Auxquels je pense les citoyens ne répondent pas aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir hein, les taux de participation aux élections.
Bon, bah, Jean-Pierre, je suis désolé, il va falloir qu'on rende l'antenne.
Oui.
Désolé, c'est une heure, c'est du direct et on n'a jamais assez le temps.
Il est 8h05, passé.
Voilà, les copains ont accepté de déborder un petit peu. Merci de ta participation. On te réinvitera à l'occasion quand on aura plus de temps. En tout cas, on sait qu'on a des émissions très très riches.
Quand j'irai à Toulouse, là.
Ah bah écoute, tu es le bienvenu à la radio. Merci Philippe Gagnebé mais à tous les auditeurs de nous avoir suivis durant cette émission. On laisse la place aux copains de la Centrifugeuse et puis on se quitte avec les Fabulous Troubadours, Ma ville est le plus beau parc. Bonne soirée sur Canal Sud.
J'ai visité Disneyland, Disney World et le Schtroumpfland. Plusieurs Futuropolis, le village d'Astérix. J'aime bien tous ces endroits où il y a du peuple et de la joie. Mais enfin, je le remarque et je le dis sans prétention. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si telle est ton ambition. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si tu en prends la décision. Des manèges, il n'y a que ça dans les rues autour de toi. Le bus, le train, l'escalator, du métro, des mégastores. Des spectacles, il y en a plein, la vie de tes concitoyens. Il suffit d'un nouveau regard, d'une nouvelle attention. Et ta ville devient ce parc aux mille et une attractions. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si telle est ton ambition. Tous les jours faut l'embellir, c'est le plus fun des loisirs. Inventer et entreprendre, proposer, bâtir, défendre. Tous les jours faut que tu oses repeindre ta ville en rose. Ne laisse pas les énarques imposer leurs solutions. Avec tous rêve ce parc et passe aux réalisations. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si telle est ton ambition. Des aventures tu en vivras, en reality rama. Si tu cherches à unir les gens contre le pouvoir de l'argent, les riches et les promoteurs te traiteront d'agitateur. Puis un jour les flics t'embarquent, tu chanteras en détention. Vous pourrez pas parquer mon parc ni zapper sa population.